projection privée. Bonjour, cette émission est consacrée à Star Wars. Nous arrivons les derniers certainement dans les médias pour en parler, mais peut-être on va essayer d'aller un peu plus loin pour parler de ce phénomène, de cette mythologie Star Wars. Cette émission vient un mois à peu près après l'émission sur James Bond, donc on a affaire vraiment à deux des deux plus grands mythes probablement du cinéma contemporain. Et pour en parler, j'ai demandé à Phalène de la Valette du Point, qui publie un hors-série deux tomes, les personnages du côté lumineux de la Force et les personnages du côté obscur de la Force. Donc ce hors-série. Également un autre hors-série, c'est celui des Inrecuptibles, Star Wars, l'envers des mythes. Et pour en parler, ce sera Léo Soesanto, qui est venu ici d'ailleurs il y a un mois, et qui est d'ailleurs le seul lien qu'il y ait entre James Bond et Star Wars, puisqu'il a parlé dans l'autre émission de James Bond. L'autre lien, c'est Erwin Kerschner, évidemment, nous en parlerons, qui, à part Léo Soesanto, qui fait le lien entre les deux mythes, c'est-à-dire Erwin Kerschner, qui a fait l'Empire contre-attaque, et également Jamais plus jamais, le James Bond hors série lui aussi. Également deux livres tout à fait passionnants, très différents l'un de l'autre, celui de Laurent Aknin, Star Wars, une saga, un mythe chez Vendémiaire, qui est un dictionnaire où on trouve vraiment tous les personnages, les thèmes, les narrations, etc., qui constituent le phénomène Star Wars. Et puis Fabrice Labrousse, qui est donc avec nous et qui, avec Francis Schall, a publié chez Bartilla une nouvelle édition, mais extrêmement augmentée, d'un ouvrage qu'ils avaient précédemment publié, Star Wars décrypté, de George Lucas à Walt Disney. C'est un titre très apte, on pourra faire une comparaison probablement entre Lucas et Disney, et on sait en plus, commercialement, parce que quand on parle de Star Wars, on parle toujours d'argent aussi, c'est Disney qui vient de racheter, enfin il y a quelques années, qui a racheté l'Empire Lucas, après avoir racheté Pixar et d'autres compagnies. Voilà, donc ce film, Le Réveil de la Force, je dois dire tout de suite que, personnellement, je pense que mes invités sont d'accord, c'est un des meilleurs épisodes de cette série. Moi, j'avais été extraordinairement déçu par les trois précédents, les trois précédents qui en fait sont les premiers épisodes de la série, les prequels, tous dirigés par George Lucas. Et il y a quelque chose d'un peu... Bon, on parlera de l'Édipe, certainement, à propos de Star Wars, mais quelque chose d'un peu édipien, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, dans le fait que les deux meilleurs films de cette série, c'est l'un qui est fait par son père, son professeur de cinéma, Erwin Kerschner, que Lucas a connu à USC, l'université de Southern California, et puis son fils, son héritier, J.J. Abrams, qui aujourd'hui signe cette dernière mouture. Donc c'est un peu humiliant tout de même pour le papa de cette saga qui a tout de même réalisé quatre films, qu'il est devancé par les deux, le Benjamin et le vétéran qu'il a formé et qui l'a formé lui. Voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Phalène de la Valette, de ce dernier épisode ?
Il est indéniablement très réussi, hein, et on peut pas dire le contraire. Tout est là pour faire revivre l'esprit des premiers Star Wars, qui étaient de la vie générale les meilleurs, la Guerre des Étoiles en particulier, un petit peu d'Empire contre-attaque. Malgré tout, je viendrai apporter un petit bémol à tout ça, c'est-à-dire que certes, la deuxième trilogie de George Lucas était raté, hein, c'est la vie, disons, universelle sur cette... Mais il y avait, je trouvais, dans cette deuxième trilogie, un souffle, une vision de George Lucas qui était peut-être plus ambitieuse que celle de J.J. Abrams ici, qui est un bon film, mais un film qui correspond à peu près à toutes nos attentes et qui ne vient pas surprendre là où malgré tout, George Lucas surprenait, même si c'était raté.
Laura Aknin.
Oui, je suis assez d'accord. D'ailleurs, dans cette histoire oedipienne, il y a quelque chose d'assez intéressant parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Kerschner était donc la génération précédente de celle de Lucas, celle de l'histoire du cinéma américain, en quelque sorte, dont il était le passeur, le professeur. Et J.J. Abrams, lui, vient quand même de la télévision. C'est lui qui a créé Lost. Et c'est là où se trouve le plus grand renouvellement de talent en ce moment aux États-Unis, malgré tout, plus que dans le cinéma. Donc, le contexte est différent dans cette histoire de filiation. Et c'est vrai, je suis assez d'accord, la prélogie magie, comme on dit maintenant, de George Lucas, n'était pas très réussie sur un plan purement cinématographique, mais elle était très riche sur un plan mythologique. L'épisode 1 était vraiment raté en tant que film, mais en tant que contenu, il y avait comme ça des idées, des souffles extrêmement intéressants. L'épisode 3, moi je l'aime bien, il était quand même très réussi, il avait une dimension tragique et vraiment très très forte, qui dépassait un petit peu les deux premiers épisodes de Lucas, mais je suis entièrement d'accord, le nouvel épisode que l'on a maintenant, il est très bon, il est très fort, et il a cette particularité d'être à la fois une récapitulation et une nouvelle ouverture. C'est-à-dire qu'on retrouve tout l'univers, on fait une sorte de synthèse de ce qui était Star Wars jusqu'à maintenant, et il y a une ouverture vers maintenant un nouveau futur de la série. On voit très bien que la fin ouverte est absolument splendide, et il y a comme ça cette nouvelle approche avec une génération moderne qui connaît parfaitement la saga et qui propose une nouvelle lecture.
Fabrice Labrousse.
En fait, sur ce film, je dirais, on pourrait le résumer en un mot, ça serait émotion. Tout a été fait par J.J. Abrams, donc et Walt Disney et Kathleen Kennedy pour que ce film caresse le poil dans le bon sens des fans de la première heure. Et c'est vrai que du coup, ça marche. On est vraiment dans l'émotion. Rien qu'à voir Star Wars, le titre arrivé comme ça, déjà ça fait monter une petite pression. Et retrouver les personnages qu'on connaissait dans cette première trilogie, donc pour les gens qui l'ont vu bien entendu à cette époque-là, c'est formidable. Donc le travail, le job est fait, comme on dit. Le truc, c'était de raccrocher maintenant les premiers fans à cette nouvelle trilogie, et comme le disait Laurent, qui est vraiment ouverte maintenant. Et on sait que là, contrairement à la première fois, George Lucas avait fait un film sans vraiment savoir s'il allait pouvoir continuer. Là, le message est clair. On va continuer pour une trilogie, ça c'est indéniable. Après, pour en revenir peut-être un petit peu sur la prélogie, c'est vrai qu'on la considère souvent moins bonne, mais elle a quand même toute cette partie politique qui est énormément développée. Enfin, ce sont vraiment deux Star Wars différents. Mais je préfère la toute première trilogie. Je pense que quant à la prélogie, elle a son pesant, quoi. Elle vaut vraiment le détour quand même.
Oui, mais on parle de cinéma. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec Laurent Racquin que du point de vue thématique, etc., cette prélogie, elle est intéressante, tout ce qu'on veut. Mais enfin, un tableau qui ne serait pas très bien peint perd beaucoup de son intérêt, même si la thématique du tableau est très intéressante. Léo Sovesanto, alors, comment vous avez perçu cette dernière mouture ?
La force et la faiblesse du rêve de la force, c'est... À la fois, effectivement, comme ce que disaient nos invités, c'est le fait de caresser les fans dans le sens du poil. C'est ce que répond George Lucas lorsqu'on lui demande son avis sur le film. Il répond un peu de manière un peu bougonne et un peu sincère que c'est un film que les fans de l'ancienne trilogie vont apprécier et vont adorer. Donc, de ce côté-là, tout le fanservice est fait. Donc, il y a vraiment le côté émotif, nostalgique de retrouver tous ces anciens personnages, Han Solo, Skywalker et la princesse Leia. Il y a surtout le passage de bâton, je pense, qui est assez réussi. Cette nouvelle génération d'acteurs, de jeunes acteurs, tout frais, Daisy Ridley et John Boyega. Après, moi, ce qui me gêne, c'est le côté vraiment, à la limite, c'est le côté remake du premier Star Wars, enfin, du numéro 4. Et c'est vraiment le film a vraiment calqué sur la structure de La Guerre des Étoiles, Un Nouvel Espoir, avec les mêmes rythmes, avec un même trame, en fait. Et donc, voilà, ça me laisse un peu sur ma faim, mais ça laisse augurer de bonnes choses pour la suite. J.J. Abrams vient de la télévision, et le propre de la télévision, c'est qu'on sait que ce sera mieux au prochain épisode.
Alors, Fabrice Labrousse parlait d'émotion. Je crois que l'émotion ici est réelle. Elle vient en particulier d'abord du renouvellement avec des jeunes comédiens qu'on ne connaît pas, etc., des personnages qui arrivent nouveaux, mais surtout les retrouvailles de Harrison Ford, de Han Solo et de Carrie Fisher, la princesse Leia, et qui se retrouvent 30 ans plus tard, vieillis. Il y a même un échange où Han Solo dit « ce qui reste de moi ». Il y a donc un humour par rapport à la dégradation physique toute relative de Harrison Ford. Falaine de la Vallée.
C'est vrai qu'on retrouve ces personnages et indéniablement, on ne peut pas, quand on a été fan des premiers films, on ne peut pas rester insensible à ça. Après, comme le disait Léo, il y a un côté fan service. On vous offre sur un plateau ce que vous avez envie de voir. Et c'est vrai que c'est merveilleux, et en même temps c'est attendu, donc Voilà. De mon côté, l'émotion n'était pas totale. C'est-à-dire que je savais que, qu'on venait me caresser dans le sens du poil et j'étais contente qu'on le fasse, mais j'aurais voulu aller plus loin, encore une fois.
Mais dans l'émotion, il y a aussi ce duel final, enfin, entre le mal et le bien.
Oui, il y a cette émotion-là, parce que déjà, il y a une fin qui est différente de toutes celles qu'on avait pu voir avant dans les films précédents. C'est-à-dire qu'il y a toujours, normalement, une séquence finale avec une ouverture dans l'espace, une musique tonitruante et des applaudissements, plus ou moins, ce qui a lieu dans cet épisode, mais sauf qu'il y a un post-scriptum là pour le coup totalement novateur et qui est splendide. Donc ça, je voudrais le signaler. Faut pas se lever à la musique. Faut attendre un petit peu que le film se termine parce que là, il y a vraiment une histoire de transmission et de renouvellement qui se met en place, qui est là totalement neuf. Mais cette histoire de retrouver les personnages, qui bien sûr est très émouvante. Moi, je pars toujours du principe que le coup de génie d'Alexandre Dumas, par exemple, c'est pas seulement d'avoir écrit Les Mousquetaires, c'est d'avoir fait 20 ans après et Bragelonne. Et il y a cette émotion là, la même que quand on lit 20 ans après ou Bragelonne, en retrouvant des personnages et en voyant leur destin et celui de leur descendance aussi. Et c'est exactement la même structure. C'est comme ça que fonctionnent les mythes, d'une certaine manière, les mythes populaires. C'est de retrouver des personnages, de savoir ce qu'ils sont devenus par rapport à notre imagination, notre imaginaire. Et là, l'émotion fonctionne d'autant plus qu'on a attendu cette suite pendant très très longtemps et que le contrat est non seulement rempli, mais en plus, il y a quelque chose de très intelligent qui se met en place dans les structures actentielles entre les personnages dans cet épisode.
Alors je voudrais, je ne l'ai jamais fait dans cette émission, je voudrais tout de même citer un entretien que j'ai réalisé en 77 avec Georges Lucas, en compagnie de Robert Benayoun. Nous étions allés le voir au studio de, je crois que c'était Elstree, à Londres, où il était en train de terminer le montage de son film. Et voici ce qu'il nous déclarait, vraiment à chaud et avec beaucoup de lui qui est, paraît-il, taiseux, il parlait abondamment et longuement de son travail. Avec La Guerre des Étoiles, j'ai voulu réaliser la fiction hollywoodienne classique à l'ancienne, que les gosses adorent. J'ai voulu me lancer dans des problèmes techniques très complexes, mais je ne peux pas dire que je m'y suis engagé à fond, émotionnellement ou intellectuellement. Maintenant que j'ai réalisé ce que je voulais, je sais que je peux faire n'importe quel film, dans n'importe quelle circonstance. J'aime davantage travailler en artisan, comme dans mes deux premiers films, c'est-à-dire THX 1138 et American Graffiti. Dans La Guerre des Étoiles, c'était comme diriger une énorme entreprise avec des centaines de collaborateurs. Je veux maintenant revenir en arrière. La Guerre des Étoiles n'est pas vraiment ce que je veux faire. C'est un film que je me devais de faire pour connaître cette expérience. Franchement, au départ, je ne voulais pas faire des films narratifs commerciaux, mais c'est la seule façon de gagner sa vie. Alors, on retiendra tout de même cette chute. C'est la seule façon de gagner sa vie. C'est-à-dire qu'il a tellement bien gagné sa vie avec le premier Guerre des Étoiles que, cas unique peut-être dans l'histoire de l'art, un homme qui a fait un tel succès ne fait que répéter pendant toute sa vie le même film. C'est comme si Kubrick faisait 2011, 2021, 2031, ou que Visconti fait Sanso 1, Sanso 2, Sanso 3, ou Corson Welles fait Citizen Kane 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire toute sa vie, ce qui est tout de même la démarche opposée à celle d'un véritable artiste qui prend des risques, explore des terrains nouveaux, expérimente, etc. Donc on voit là un Lucas extrêmement sincère qui pensait qu'il allait revenir au cinéma expérimental. C'est un peu intéressant, parce que ça nous permet peut-être d'analyser ce phénomène, Phalène de la Valette.
C'est ce qui rend peut-être Lucas si passionnant et si attachant. Il y a une espèce de paradoxe interne à l'homme qui passe son temps à dire qu'il veut faire des films expérimentaux et qui ne les fait jamais. On attend toujours. Alors certes, il a essayé un petit peu sur la fin de sa carrière de tenter de nouveaux films, mais malgré tout, il est comme tout le temps happé par l'argent, par la création aussi, je pense, parce que malgré tout, il a créé cet univers et cet univers le rappelle à lui. Alors certes, il y a l'argent, certes, il y a la mécanique commerciale. Il voulait faire vivre Lucasfilm, donc il fallait bien alimenter Lucasfilm. Mais c'est vrai que c'est peut-être ce qui le rend attachant, finalement.
Mais Léo Sorrisanto, vous interviewez dans le numéro de hors-série des arts, vous interviewez le grand chef opérateur, enfin, en particulier qui a fait tous les films de Cronenberg, Peter Suchitsky, et il vous dit en tout cas qu'il n'ira pas voir le film et qu'il n'a pas vu les trois derniers et que pour lui c'est la mort de l'art, voilà.
Oui, Peter Suchitsky est quelqu'un, à l'époque où il fait Empire Contre-Attaque, il dit lui-même il n'est pas fan de science-fiction, il n'est pas du tout accoutumé à ce genre d'univers, donc il vient là-bas pour travailler, comme Lucas Descartes dans votre interview qui vient travailler. Mais vraiment, votre interview révèle vraiment le nœud, enfin le problème de Georges Lucas, qui à la fois est déchiré entre le côté artisan, le côté expérimentateur, qui essaie de revendiquer, et le côté cinéaste classique, le premier Star Wars, qui pouvait paraître révolutionnaire pour les jeunes enfants qui voient le film à l'époque, n'est en fait qu'une espèce de compilation de tout ce qu'il aime, du cinéma classique, de David Green, à John Ford, Stanley Kubrick, ou même les films de guerre, les films de pilotes pilote d'avion de la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. Donc il y a vraiment ce George Lucas qui est vraiment déchirant entre ces trois tendances, le côté lumineux, le côté obscur et un côté entre deux. Et c'est vraiment ça rend vraiment passionnant. Même sa prélogie, donc La menace fantôme et Ravage des Sith et Attaque des clones, même si les films effectivement ne sont pas bons du tout, George Lucas en fait n'est pas un bon réalisateur. C'est juste quelqu'un qui a à un moment donné réussi à capturer un air du temps, une zeitgeist. C'est quelqu'un qui est très bon dans les effets spéciaux, c'est quelqu'un qui est très mauvais dans les dialogues, c'est lui-même qui le dit. D'ailleurs, les meilleures séquences dans Le Réveil de la Force sont muettes, il n'y a aucun dialogue, ce qui était à la fois une espèce de pied de nez à George Lucas pour lui dire que tout ce que tu as fait de plus mauvais dans les Star Wars, ce sont les dialogues. Donc il y a vraiment il y a plein de choses paradoxales qui s'agitent dans la tête de Lucas et qui parcourent son œuvre. C'est quelqu'un vraiment qui est devenu riche, mais qui a beaucoup payé, qui a beaucoup donné de sa personne à cause de ça.
Oui, c'est très touchant parce que, d'une certaine manière, j'ai l'impression que Lucas a mis beaucoup de lui dans la prélogie avec le personnage d'Anakin. Anakin, finalement, fait un pacte à un moment donné. C'était quelqu'un qui était... Oui, un pacte faustien, tout à fait. C'était un Jedi qui était promis un grand avenir, le plus grand avenir. De même, peut-être que Lucas se voyait comme un auteur dans la lignée du nouvel Hollywood de l'époque. C'était vraiment cette conception-là qu'ils avaient tous de cette génération du métier de réalisateur. C'est d'être un auteur, de faire avancer le cinéma. Et Lucas s'est retrouvé pris un piège de la même manière que Anakin s'est retrouvé finalement face à l'empereur, celui qui est devenu l'empereur, dans une espèce de pacte faustien. Après avoir fait la guerre des étoiles, il a signé un succès planétaire dont il n'a jamais plus réussi à se sortir, mais tout est relatif, il n'est pas devenu quand même Darth Vader, il est devenu quand même l'auteur d'une des plus grandes mythologies contemporaines de l'histoire. Comme pacte et comme damnation, on peut trouver pire.
George Lucas n'est pas à une contradiction près, hein, on l'a souvent vu au cours de sa carrière. De toute façon, à un moment donné, il en parle, hein, c'est presque alimentaire, mais c'est comme Irving Kirchner quand il a fait Robocop. Robocop 2, c'était purement alimentaire. Ça,
ah oui, non, mais personnellement, on ne va pas critiquer un cinéaste qui a besoin de payer des impôts. Non, c'est pas un problème. Tout le monde peut faire quelque chose d'alimentaire.
Voilà.
Mais c'est pas une question de morale. C'est parce que Kirchner, d'ailleurs, a refusé de faire un deuxième Star Wars. Lucas lui a proposé, après l'Empire contre-attaque, de faire la troisième partie. Il a refusé. Parce que justement, ça ne l'intéressait pas de refaire.
Oui, et puis c'est vrai que c'était pas... Enfin, c'est vraiment la grosse cavalerie. Donc là, c'était pas trop son style de cinéma non plus, à la base, hein, d'Irving Kirchner. Mais pour revenir à votre interview encore, on voit bien qu'à cette époque-là, George Lucas était quand même resté dans le cinéma d'auteur à la base, ce qu'il a fait avec THX complètement, qu'il a un peu fait évoluer avec American Graffiti parce qu'il fallait qu'il sorte un peu de ce bourbier du cinéma d'auteur, donc même poussé par Francis Ford Coppola. Et finalement, c'est arrivé sur la guerre des étoiles. Et à cette époque-là, il semblerait qu'il ne savait pas non plus quel succès aurait ce film. Donc on peut comprendre qu'il puisse ensuite revenir à quelque chose de plus normal, entre guillemets, quoi, entre parenthèses. Et puis, c'est devenu ce que c'est devenu.
D'ailleurs, il y a un peu une désinformation aujourd'hui dans les médias quand on dit que personne s'attendait à un vrai succès, les gens pensaient que ça allait être un échec terrible. C'est pas vrai du tout. Moi, je me rappelle de cette époque, la Fox croyait au film. D'ailleurs, on faisait pas venir des journalistes à Londres pour le rencontrer si on pensait que c'était un film qui n'aurait aucun succès. Et aux États-Unis, les gens qui ont vécu aux États-Unis à l'époque étaient bombardés par des bandes-annonces, par de la publicité, par des tracts, etc. Donc, c'est incontestable que ce n'est pas un film qui a eu un succès comme ça phénoménal. Ce n'est pas du tout le cas de James Bond, qui lui, quand il a été créé, effectivement, était un tout petit film. Voilà. De même, le budget, on dit que c'est un film finalement à petit budget. Non, c'est à peu près le budget de 2001. C'est à peu près le budget de grosses productions de l'époque. Au départ, ça devait être un petit budget, mais c'est arrivé à 11 millions de dollars, ce qui était tout de même pas rien en 1977. Laurent Hacquelin, j'ai bien aimé une définition, parce que ça pose effectivement le problème à la fois de la qualité du film et peut-être des films et de leurs limites. Vous dites, on a une impression du encore jamais vu et un curieux sentiment de déjà vu. La conception que offre Lucas en 77 est totalement nouvelle. Je comprends que pas mal de gens ont été désorientés. Je parle pas mais au départ, même des gens de la Fox étaient désorientés qui produisaient le film. Mais en même temps, c'est tout de même aussi une série de films qui repose. Léo Soresanto l'a déjà suggéré par des références à John Ford, au Kurosawa, dont on n'a pas parlé, on va en parler. Donc il y a ce double mouvement.
Oui, en fait, je parlais de mon impression, de mon souvenir, de ma première vision du premier épisode, enfin de La Guerre des Étoiles en 77, que j'ai découvert, j'étais ado, au Grand Rex, je me rappelle encore, et c'était cette impression à la fois mitigée, mais enthousiaste de toute manière, mais enthousiaste parce que j'en avais pris plein les yeux, plein les oreilles aussi, avec le système de son, avec ces vaisseaux spatiaux qui passaient au-dessus de ma tête, venant de l'arrière, traversant l'écran en profondeur de champ, ce qu'on n'avait encore jamais vu, les combats au sabre laser, c'était totalement nouveau, du rayon laser, on en avait vu, mais jamais comme ça. Enfin, tout était neuf visuellement, donc c'était une plongée dans un univers cinématographique radicalement neuf. Et en même temps, comme j'avais quand même déjà vu pas mal de films, cette impression, qui n'était pas désagréable d'ailleurs, de revoir une histoire que je connaissais déjà, une histoire de chevalier, une histoire de princesse, une histoire de péril, une histoire d'initiation, autant d'éléments qui me semblaient familiers, que je n'avais encore jamais vu dans ces habits-là, mais qui n'étaient pas vraiment neufs. Et l'enthousiasme que j'avais eu par le film venait aussi peut-être du fait que je me retrouvais dans un univers qui était à la fois neuf et familier. Et c'était la grande force de La Guerre des Étoiles lors de la première sortie, cette réussite de plonger le spectateur dans quelque chose d'inédit et en même temps de familier. Donc une adhésion complète à cet univers dès la première sortie.
Là, on en arrive évidemment à l'influence de certains penseurs, de certains livres qui l'ont marqué. On pense bien sûr qu'à Cassandra, mais plus particulièrement Joseph Campbell, c'est-à-dire le héros aux mille visages, où il retrouve de façon jungienne les archétypes universels qui perfusent pratiquement tous les grands récits mythiques. Il réduit cela finalement à un monomythe, Phalen de la Valette.
Effectivement, Georges Lucas, je crois que c'était au milieu de la réalisation de La Guerre des Étoiles, est tombé sur le bouquin de Joseph Campbell, le héros aux mille visages. Et il a été profondément touché par ce bouquin parce qu'il s'est rendu compte que c'est ce qu'il essayait de faire. Et du coup, il en a tiré un petit peu son savoir. Joseph Campbell est devenu son mentor. Et d'ailleurs, après la sortie de La Guerre des Étoiles, quand le film a eu du succès, George Lucas a montré le film en projection privée dans son ranch Skywalker à Joseph Campbell, qui paraît-il, en tout cas c'est ce que raconte l'histoire, à la fin du film s'est tourné vers George Lucas et lui a dit: voilà, tu as réussi à mettre en image ce que j'avais mis en livre, en fait. Et
Soresanto,
par rapport au mythe, non, ce qui est amusant, c'est que je vais me contredire, mais je reprochais en fait au Réveil de la Force d'être trop calqué sur Un Nouvel Espoir, mais la force du mythe et la permanence du mythe, c'est que c'est la même histoire qui revient de décennie en décennie. Donc effectivement, on peut critiquer le Réveil de la Force comme étant un remake amélioré d'Un Nouvel Espoir, mais en fait ça ne fait que répéter une même histoire originelle, donc c'est relevé par Joseph Campbell dans son livre. Donc oui, c'est Star Wars, c'est vraiment le mythe moderne, le mythe par excellence, plus fort que James Bond, je pense, parce que c'est beaucoup plus universel, ça parle beaucoup plus aux enfants et peut-être aux femmes, surtout avec ce film-là, avec Réveil de la Force. Donc oui, Lucas, oui, est peut-être un pas très bon cinéaste, mais en tout cas, comme je le disais, a réussi à prendre un air du temps, à la fois contemporain de son époque, dans les années 70, mais aussi quelque chose de plus mythologique, de plus profond, de plus jungien, de plus primitif.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Lucas a découvert Campbell, non pas en pré-production, quand il commençait à écrire la première mouture, mais quand il était déjà en train de faire le film. Donc, on voit bien que ce scénario a une strate, a une force inconsciente, justement, c'est le principe même des archétypes jungiens et du monomythe tel qu'en parle Campbell. Campbell, en un mot, sa théorie du monomythe, c'est de dire que dans toutes les structures des récits mythologiques, des épopées, il y a pratiquement toujours la même structure narrative pour le héros. Il décrit environ 12 pour la beauté du nombre, je pense, 12 étapes que le héros va toujours franchir. Et cette structure se retrouve de mythe en mythe, de roman en roman, quand il s'agit de grands archétypes, de grandes structures narratives. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Lucas n'a pas découvert ce livre, donc, pour faire son scénario, il avait déjà établi les grandes lignes et il retrouve, en lisant Campbell, ce qu'il était en train de faire. Donc, évidemment, cet effet miroir qui a eu lieu à voir a été très, très fort. Mais, par exemple, on peut considérer que Campbell, les théories de Campbell, ça marche aussi dans L'île au trésor de Stevenson. C'est la même histoire. Les mêmes structures se retrouvent. Et c'est ça la force du mythe. Quand on parlait tout à l'heure d'impression de déjà-vu, c'est cela. C'est qu'on retrouve ces histoires immémoriales, archétypales, de légende en légende, d'épopée en mythe. Et la guerre des étoiles est une des dernières grandes occurrences de ce régime.
Fabrice Labrousse.
Je serais un petit peu pas tout à fait d'accord. Enfin, je crois que il faut se rappeler quand même que Georges Lucas faisait des études d'anthropologie, donc il savait très bien où il allait. Il a connu Campbell, en fait, les œuvres de Campbell, quand il a fait ses scénarios, au fur et à mesure de ses scénarios. En fait, en voulant tout à fait appliquer les règles de Campbell. Or, il s'est rendu compte que c'était un peu long. En plus, ce n'est pas un écrivain, on l'a dit. C'était un peu long. Et finalement, il a laissé tomber ça. Il a dit, allez, je repars à zéro, je refais un autre script et allons-y. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que finalement, tout ce que Campbell avait appliqué, lui-même les avait appliqués à son nouveau scénario. Et comme Fallen le disait, c'est lors du retour du Jedi qu'il a vraiment connu Joseph Campbell, qu'il a d'ailleurs invité au Orange, et que Campbell disait, oui, c'est mon meilleur élève, c'est George Lucas. Et dans cette nouvelle trilogie qui commence, et c'est vrai, Léo le disait, on a tout à fait les archétypes qui sont là. On a tout le monomythe campbellien est là, trait par trait, chaque épisode, je veux dire, le guide, le refus de l'appel, etc., tout est là.
Donc, le retour.
Donc on peut penser que ce film va forcément marcher, puisque tout est là, c'est tout ce que l'humanité est à nouveau concentré dans la guerre des étoiles et dans le réveil de la force. Je pense qu'on va aller très loin encore une fois.
Avec en plus cet élément dont Léo parlait, qui est très important, ce thème du retour, l'éternel retour d'une structure qui revient encore et encore. Parce que finalement, à la fin du retour du Jedi, rien n'était vraiment réglé. L'Empire était détruit, mais la mission d'Anakin, qui était de rééquilibrer cette fameuse force, n'a pas été accomplie. Et comme on est revenu pratiquement à un point de départ, la roue karmique continue. Et 40 ans plus tard, on voit que les mêmes causes de déséquilibre produisent les mêmes effets. Et ce thème du retour revient avec une transposition et un passage de relais dans les structures familiales, encore et encore. Et ça fait aussi partie des structures des mythes classiques.
Je pense d'ailleurs que dans l'opposition de certains au cinéma américain, c'est-à-dire le triomphe du dollar, etc., on oublie aussi le côté jungien. C'est-à-dire que si le monde entier va voir des films américains, c'est bien sûr parce qu'ils ont beaucoup de circuits de salles et qu'ils ont beaucoup d'argent, etc. Mais enfin, les Russes, par exemple, avant la chute du mur, ils inondaient la Roumanie et la Pologne et la Tchécoslovaquie de films russes que personne n'allait voir. Et pourtant, ils avaient des moyens de coercition et de propagande. Donc, c'est que je crois que le cinéma américain, effectivement, dans certains de ses films, touche à des choses très profondes qui font qu'il y a un langage universel. C'est pas seulement le modèle américain, c'est aussi le langage universel, du mythologique, qui fait que les gens retrouvent des grands archétypes qu'ils ont connus dans leur propre vie ou qu'ils ont lus dans d'autres livres. Alors, on va voir en écoutant la musique de John Williams. En passant un extrait donc du prologue des films de Star Wars, que là aussi, il demande à Williams une musique qui se rapproche de l'ancien. C'est à la fois un mélange de Wagner et de Tchaïkovski, mais de Korngold et de Miklos Rossa, c'est-à-dire de la grande musique symphonique hollywoodienne des films d'Errol Flynn ou d'autres grands films de Michael Curtis. Voilà, et donc il combine tout de même l'ancien et le nouveau.
Culture, projection privée, Michel Simon.
Voilà, alors l'apport de John Williams, Léo Suesanto.
John Williams, c'est effectivement, quand vous entendez ce thème, vous avez envie d'attaquer l'étoile de la mort. Mais l'apport de John Williams, oui, est vraiment consubstantiel aux deux trilogies, donc avec ses thèmes, avec cette tradition, effectivement, comme vous le reviez, hollywoodienne, Miko Shroja. C'est consubstantiel à l'ADN de Star Wars, un peu pompier, on peut le dire, mais très efficace, et ça se poursuit. Et d'ailleurs, dans le dernier film, ça manque un petit peu de John Williams, qui signe aussi la musique du Réveil de la Force, n'a pas, dans mon souvenir, signé de thèmes vraiment mémorables dans ce film. Je pense que c'est une des faiblesses du Réveil de la Force, c'est sa musique, paradoxalement.
Avec ce détail qui, moi, me plaît beaucoup, on passe toujours la musique de Star Wars en commençant avec cette ouverture, mais on oublie la musique de la 20th Century Fox qui précède, parce qu'il faut bien voir que ça a été conçu aussi pour que ce soit dans la même tonalité. C'est-à-dire que normalement, on doit entendre la fameuse musique de la Fox et ensuite la fanfare de Star Wars qui raccorde au niveau tonalité. Ça a été pensé aussi en fonction du générique de la Fox pour que ce soit une ouverture complète. Et il faudrait mettre les deux ensemble pour que ça marche bien.
Plus sur le Réveil de la Force, justement parce que c'était racheté par Disney.
Voilà, et donc, ça manque terriblement.
Il y a un grand silence au début, on est un peu déstabilisé. Quand est-ce que ça commence? Et voilà et ça commence.
Il manque ça.
Alors Fabrice Labrousse, je crois que c'est Spielberg qui avait recommandé John Williams à son ami George Lucas.
Il l'avait recommandé parce qu'il avait signé un premier film avec Spielberg. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'il devait aussi faire la musique de Rencontre du Troisième Type. Et quand Spielberg a écouté ce que John Williams a fait sur Star Wars, là, il a commencé à prendre peur parce qu'il a dit « Mon Dieu, si il a mis toute son énergie dans Star Wars, ça va être compliqué pour Rencontre du Troisième Type, qu'est-ce qu'il va nous faire ?» Alors que John Williams, c'est quelqu'un qui a un potentiel énorme et qui a su faire toutes les musiques qu'on sait depuis, E.T., etc. Enfin, bon, c'est vrai que Star Wars, sans John Williams, ça ne serait pas du tout Star Wars. Je suis persuadé qu'on n'aurait pas le succès, qu'il n'aurait pas connu le succès qu'il a connu. Et après, je rejoins quand même, c'est vrai, ça m'a un petit peu surpris. Donc j'ai vu le film également deux fois déjà. La musique de John Williams, par contre, c'est paradoxalement, dans le Réveil de la Force, elle est un petit peu, on a les thèmes qui sont là, heureusement, mais je la trouve un peu en deçà de...
Vous êtes d'accord avec lui
en dessous de ce qu'il nous a fait.
Un service minimum, un petit peu.
Ouais.
On n'a aucun thème, on sort de la salle sans avoir retenu aucun autre thème.
Exactement.
Que ceux qu'on connaissait déjà. Et ce qui est dommage d'ailleurs, parce que peut-être l'idée de génie de John Williams, c'est d'avoir repris l'idée wagnérienne d'attribuer un thème à chaque personnage qui faisait qu'à chaque fois qu'on entendait cette musique, on savait à quel univers ça renvoyait, à quel fil narratif ça renvoyait. Et c'était ça qui nous faisait voyager aussi. Et là, sur le Réveil de la Force, effectivement, ça manque un peu. Les nouveaux personnages n'ont pas leur thème, ou en tout cas, il n'est pas aussi audible que sur les autres thèmes.
Enfin, notons quand même que l'idée de mettre un thème par personnage dans un tout autre style, c'était quand même Morricone qui l'avait inventé avec Sergio Leone.
Voilà.
Et avec plus Wagner. Et il y a aussi des choses amusantes dans l'histoire de la musique de Williams, c'est de voir que par exemple, le fameux thème qu'on appelle maintenant le thème de Darth Vader n'était pas au départ le thème de Darth Vader, ça s'appelle la marche impériale, ça désignait l'Empire simplement. Et au fur et à mesure d'évolution de la saga, c'est devenu une musique qui a été attribuée définitivement à Darth Vader. Et même quand Anakin fait son premier forfait qui n'est pas encore Darth Vader, on entend ce thème un petit peu lent qui arrive comme ça, comme par effraction, et on voit comment cette musique a changé de sens progressivement au fur et à mesure de l'élaboration de la saga.
Alors, Falaine de la Valette, dans le hors-série du Point, auquel vous avez beaucoup participé, il y a un article très intéressant de vous sur le personnage de la princesse Leia. Et justement, là, on voit encore une fois l'influence du passé sur la construction d'un film comme Star Wars. Vous montrez très bien, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'illustrations de peintures, de dessins, de gravures qui montrent toutes les origines visuelles du film, le rapport qu'il y a entre la princesse Leia et Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que y compris cette robe blanche, virginale, etc. Et puis cette femme guerrière, cette femme qui mène le combat.
Oui, c'est vrai que quand on voit... D'ailleurs, l'une des premières scènes de la Guerre des Étoiles, c'est ce face-à-face entre Leia et Dark Vador. Leia, tout de blanche, vêtue, dans une robe qui rappelle un peu une robe de presque de bure, mais blanche du coup, une aube, une robe d'ange, une robe de sainte, finalement, comme Jeanne d'Arc. Et on a cette princesse guerrière face à ce diable noir Et ça renvoie effectivement dans l'imaginaire, en tout cas à l'image que les Américains se font de Jeanne d'Arc, cette image de résistante face à l'oppression. Et c'est assez amusant. Et ce qui est assez amusant aussi, c'est le renvoi des fameux macarons de la princesse Leia, qui sont pas totalement une invention stylistique, puisque George Lucas s'est rappelé une photo des révolutionnaires mexicaines qu'il avait vues, des guérilleras, et il avait aimé ce détail qu'elles avaient de remonter leurs cheveux en soutien à la révolution, et donc il a demandé à la styliste, à la coiffeuse, de trouver quelque chose qui renvoyait à ce signe de combat chez les femmes.
Comme quoi, il n'y a pas de détails, hein. Tout compte dans la trilogie de George Lucas et dans Star Wars. Là, vraiment, le petit détail compte absolument pour tout.
Alors, dans ce... oui, Fabrice Abruzzo, merci, oui, de ce commentaire. Mais ce qu'il y a aussi, c'est dans les grands mythes, il y a l'inceste. Alors là aussi, c'est l'introduction de la psychanalyse dans ce Star Wars. Pas seulement Jung, mais aussi Freud. Il y a l'inceste, il y a aussi le rapport édipien, évidemment. Et l'inceste entre la princesse Leia, qui aurait pu se consommer, enfin, heureusement, ils l'apprennent à temps, entre Luke Skywalker, qui pourrait être... On pourrait traduire Skywalker par le piéton du ciel. Je trouve que c'est exactement ce que ça veut dire, le piéton du ciel, entre Luke Skywalker et donc sa sœur, la princesse Leia.
Oui, alors cet inceste, on frôle l'inceste dans l'épisode 5, dans l'Empire contre-attaque, avec la fameuse scène du baiser, bien sûr par provocation envers Han Solo, entre Luke et Leia, mais ça renvoie aussi à une mythologie encore plus ancienne. Luke, Leia, même nombre de lettres, même initiales, sont des jumeaux. Vraiment, au départ, ils sont presque indifférenciés quand on regarde leur apparence physique. Ils sont tous les deux presque sexuellement indéterminés.
Enfin, moi, je ne prendrais pas tout de même Luke Skywalker pour une femme, ni inversement.
Non, mais c'est pas vrai. Il n'est pas vraiment viril. Et au départ, Leia n'est pas vraiment très féminine non plus. C'est là qu'il faut voir la corrélation entre les deux. Alors bien sûr, il y a ce drame oedipien qui se joue avec la recherche du père obscur, Dark Father. Ça, le symbole et le nomastique, elle est très très claire. Mais tout ce qui est intéressant dans la saga, c'est qu'il n'y a pas un mythe unique. C'est-à-dire que c'est un agrégat. Je veux dire par là que quand, au moment où Luke combat Darth Vader dans l'épisode 5, avec la réplique fabuleuse « Je suis ton père » et que Darth Vader lui inflige une castration symbolique en lui tranchant la main qui tient le sabre.
Le bras phallique,
celui qui tient le sabre. Bon, là, c'est vraiment un drame oedipien, mais vraiment classique. Au même moment, on retrouve une autre mythologie qui se met en place, c'est celle des jumeaux égyptiens, Isis Osiris, puisque c'est sa sœur jumelle qui va sauver la vie de son frère, qui va l'aider à le recoudre un peu plus tard dans le vaisseau. Et là, on retrouve totalement l'histoire des jumeaux Isis et Osiris. Pour dire simplement qu'il n'y a pas une grille de lecture unique dans la saga. Comme dans toute grande mythologie, elle repose sur des mythes au pluriel anciens qui se mélangent, s'agrègent et qui ensuite se forment une nouvelle mythologie, c'est celle que l'on connaît actuellement.
Dio Sorrisanto, vous vous intéressez beaucoup, vous l'avez très bien analysé avec James Bond, au costume. Vous êtes un peu l'arbitre des élégances. Ce personnage de Darth Vader est tout de même une extraordinaire création visuelle. Je veux dire, ce costume... alors, évidemment, on pense à l'opéra wagnérien, incontestablement. Et ça fait partie de cette dichotomie qui parcourt toute l'œuvre des six films, les sept films, c'est-à-dire le bien contre le mal. Enfin, c'est très américain aussi. Il ne faut pas oublier que la guerre des étoiles vient au moment de la guerre du Vietnam. Plus tard, Ronald Reagan appellera son système de défense antimissile la guerre des étoiles. C'est tout de même le triomphe du manichéisme dans la politique mondiale. Comment vous voyez cette création de Darth
Vader, effectivement, oui, avec son
ça dépend de la version française ou américaine.
Son théâtralisme très wagnérien, mais aussi son casque qui est purement inspiré des casques de samouraï, donc de samouraï japonais, donc aussi l'influence de Kurosawa, donc dans l'œuvre de Lucas, dont on pourra parler. Oui, déjà dans Star Wars en général, les costumes ne sont pas forcément des sommets d'élégance. On est un peu dans le kitsch rétro-galactique. Ne pas oublier que quand même l'influence première de Star Wars, c'est Flash Gordon, puisque George Lucas voulait faire Flash Gordon, n'a pas pu faire Flash Gordon, et a fait Star Wars à la place.
C'est Alain Resnais qui avait les droits.
Oui. Mauvaise pioche pour George Lucas, mais effectivement, oui, toutes ces créations vestimentaires, donc de au fil de la série sont vraiment à la fois très fonctionnels, très symboliques. Le côté blanc de la robe de la princesse, la tunique de Luke Skywalker au début dans Nouvel Espoir, qui devient un costume noir au fur et à mesure qu'il devient plus assuré, devient plus adulte et se rapproche de son père dans Retour du Jedi. Donc oui, il y a plein de choses dedans. Ce sont à la fois des vêtements, on va dire, très fonctionnels. Mais il y a des blagues aussi vestimentaires dans Le Réveil de la Force, notamment sur le gilet de Han Solo, qui n'est pas très élégant, on va dire, qui est un gilet de pirate, mais qui symboliquement reste très fort. C'est un symbole de passage de relais, de bâton dans Le Réveil de la Force.
Oui, c'est un art très syncrétique. Je rebondis sur ce que dit Léo Soesanto sur l'influence de Kurosawa. Je pense qu'il faut en parler, parce que c'est pas seulement le cinéma américain qui l'a inspiré, ou même le thème de Jeanne d'Arc, mais c'est vrai. Il faut pas oublier non plus que plus tard, Lucas va produire avec Spielberg et Coppola Kagemusha de Kurosawa. Ils viennent en aide à leur maître qui ne trouvait plus l'argent au Japon. Comment vous voyez cette influence, Fabrice Labrousse, du cinéma des samouraïs en particulier?
Ouais, en fait, c'est un petit peu c'est qui de l'œuf ou la poule, parce que quand même, c'est indéniable, George Lucas a toujours apprécié le cinéma japonais, en particulier celui de Kurosawa. Mais il faut quand même savoir que Kurosawa, lui, s'était déjà imprégné du cinéma de John Ford, donc du western américain. Donc voilà, un petit peu, c'est un petit peu, on ne sait pas trop qui a commencé par aimer le cinéma de l'autre. George Lucas, lui, ce qui est clair, c'est que quand il a découvert les films de Kurosawa, en fait, sans connaître le japonais, ce qu'il trouvait, il trouvait une musique à ces films-là, justement. Et il pensait, et c'est un petit peu, il a essayé avec La Guerre des Étoiles d'essayer de calquer un peu ce principe et de faire un film muet qui pourrait se comprendre sans dialogue, voilà. Après, juste, j'aurais juste à rajouter un petit peu par rapport à Dark Vador qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est indéniable que l'art samouraï a compté pour Dark Vador. Mais alors, je ne sais pas qui a été le premier, mais il y a aussi un serial de 1938, The Fighting Devil Dogs, dont on trouvera, on regardera ça, et c'est formidable parce qu'on verra carrément Dark Vador à l'écran. À cette époque-là, donc il y a un monsieur capé avec un grand casque qui est typiquement celui de Dark Vador également. Donc, est-ce qu'ils ont copié sur les samouraïs de Kurosawa de l'époque, enfin de Kurosawa, les samouraïs de la grande ère, ou alors qui a fait quoi. C'est là, il y a quelque chose à démêler peut-être.
Laurent Acquin.
Non, mais on ne dira jamais assez l'influence de Kurosawa sur le cinéma occidental américain à un moment donné. C'est vrai que le film référence pour La Guerre des Étoiles, c'est La Forteresse Cachée. Il faudrait le revoir maintenant, et c'est étonnant de voir la structure, les deux personnages, les deux vagabonds de La Forteresse Cachée qui ressemblent vraiment maintenant aux deux droïdes R2-D2, C-3PO dans leur fonction même aventureuse. Mais Kurosawa a influencé le western italien, a influencé énormément de choses dans le cinéma européen puis américain, dans un jeu d'aller-retour permanent. Et c'est vrai que lui-même était influencé par du cinéma hollywoodien classique. Ce jeu d'aller-retour est permanent. Mais c'est vrai ce que vous avez dit, que La Guerre des Étoiles, l'ensemble de la saga, est une œuvre syncrétique. J'aime beaucoup l'expression de Léo sur rétro-galactique. J'aimerais beaucoup lui piquer d'ailleurs, parce que ça démontre vraiment, c'est très bien vu. C'est exactement ça. Mais c'est en cela aussi qu'on reconnaît comment une mythologie fonctionne. C'est-à-dire en reprenant des éléments anciens et en mettant sous des nouveaux habits. Les habits neufs d'éléments anciens, c'est ça aussi qui actualise et revivifie une mythologie ou des mythologies antérieures. Et c'est comme ça que ça fonctionne.
Fanen de la Valette, justement, dans le livre de Laurent Acquin, il y a un chapitre sur, enfin, puisque c'est un abécédaire, il y a un chapitre sur orientalisme, justement. Alors, le Japon, c'est l'Orient, mais il ne s'agit pas de cet Orient-là, il s'agit d'un autre Orient, l'Orient du désert, l'Orient des personnages plus de l'Orient, du Moyen-Orient, plutôt. Comment vous voyez cela aussi chez... votre point de vue aussi sur le côté alors extrême oriental japonais.
Ouais, ce qui est, on l'a dit encore une fois de l'influence de Kurosawa, mais ce qui est intéressant peut-être c'est de voir que George Lucas et toutes ses équipes, parce que c'était pas seulement lui qui allait chercher dans les costumes qu'il allait prendre, etc. Il va à chaque fois chercher des composantes devenues d'Extrême-Orient, venus d'Allemagne aussi, puisqu'on n'a pas parlé de l'influence, entre guillemets, de l'esthétique nazie sur Star Wars, mais il y a cette influence très forte et qui est reprise dans le Réveil de la Force, puisque le jeune général Hux, qui est un des méchants du Réveil de la Force, ressemble à un Aryen. Il est vêtu d'un uniforme qui rappelle entièrement ceux de l'Allemagne nazie. Il s'adresse aux foules comme Hitler le faisait avant lui.
Donc, on a fait des rapprochements même entre le final du premier Star Wars avec Leni Riefenstahl et des grandes célébrations nazies.
Exact, exact. Mais ce qui est intéressant aussi, parce qu'on a beaucoup parlé effectivement de ce patchwork de mythes, de ce syncrétisme de mythes, mais il y a une composante aussi propre à Star Wars, en tout cas qui a été reprise et étendue avec Star Wars, c'est ce côté transmédia qui est presque une extension moderne du mythe, c'est-à-dire que le mythe se raconte à travers des histoires orales, écrites, à travers des scènes, des pièces de théâtre, etc. Star Wars se raconte à travers tout. Le jeu vidéo, le cinéma, les bandes de ciné, les costumes, les jouets. Et c'est ça, finalement, peut-être qui explique le plus le succès de Star Wars et l'impact qu'il a eu sur notre culture populaire, qui a un impact à part Disney, justement, à part Walt Disney. Je ne pense pas qu'on puisse trouver un tel impact sur notre culture populaire contemporaine. Et on le doit certainement à ça, à ce... George Lucas, après... Tolkien, qu'il avait fait lui aussi, avait inventé un univers transmédia, un univers dont les tentacules, si on peut dire, se répandaient à travers toutes les strates de la société. Tolkien, le magicien d'Oz, l'auteur du magicien d'Oz avait fait la même chose. Walt Disney avait fait la même chose. Et George Lucas a étendu ça de façon unique, en fait. Il n'y a jamais eu un monde avec autant de pièces détachées.
Oui, d'ailleurs, j'aime bien le titre, le sous-titre de votre livre, Fabrice Labrousse, que vous avez écrit avec Francis Schall, de George Lucas à Walt Disney. Ça, on pourrait dire aussi de Walt Disney à George Lucas, mais là, ça serait l'influence artistique. Là, il s'agit plutôt d'un problème économique, puisque, comme je l'ai dit au début, Disney a racheté l'Empire Lucas. Mais il y a des points communs entre les deux. Je veux dire, Disney a commencé aussi comme un homme extraordinairement inventif et original, avec des courts-métrages magnifiques, et puis petit à petit, il a délaissé, il a confié à d'autres le travail. Lucas plutôt a du mal avec les comédiens, il n'aime pas le travail sur le plateau, etc. Bon, donc il aurait pu être un roi de l'animation, parce que là, il aurait pu se passer des comédiens. Donc il y a vraiment des points communs entre ces deux hommes.
Il y a énormément de points communs entre ces deux hommes, en fait. À étudier un petit peu ces deux personnages, on voit que s'ils avaient été contemporains, ils auraient certainement travaillé ensemble, c'est une évidence. Oui, Walt Disney a commencé avec des petits personnages comme ça. D'ailleurs, c'est pas forcément lui qui les dessinait, mais c'est lui qui donnait le scénario, quoi, un petit peu de ces choses-là. Et George Lucas, de toute façon, dès le départ, a toujours été impressionné par Walt Disney. Il allait d'ailleurs dans les parcs de Walt Disney. Il y passait des semaines en famille. Il dormait à l'hôtel, c'était un fan de Walt Disney, pour lui c'était les grandes vacances.
Donc, qu'il est plutôt démocrate que républicain. Disney était antisémite, anticommuniste, etc.
C'est ce qu'on disait.
D'ailleurs, dans les combats, il y a un article très intéressant qui a été écrit dans un des suppléments, c'est le rouge des républicains qui sont les forces du mal, et le bleu des démocrates qui sont les forces du bien.
Oui, c'est ce qu'on dit sur Walt Disney. Bon, vrai, toute considération politique mise à part.
On est obligé d'en parler. Ça fait partie de l'homme.
Et donc, en fait, on se rend compte que finalement, ils ont tous les deux inventé beaucoup de choses. On fait avancer le cinéma. Walt Disney, par exemple, pour les enregistrements de films, quand le film est devenu sonore, il avait créé un camion qui mettait à disposition comme ça pour des sociétés pour enregistrer. George Lucas, lui, a inventé les effets spéciaux. Enfin, en tout cas, les a fait inventer. On trouve énormément de choses.
Merci beaucoup, donc, tous les quatre d'être venu parler finalement de cette saga très, très riche, en tout cas thématiquement. Fadène de la Valette, donc, pour les deux hors-série du Point. Laurent Aquenin pour son livre Abécédaire Star Wars, une saga, un mythe aux éditions Vendémiaire. Fabrice Labrousse, co-auteur avec Francis Schall de Star Wars décrypté de George Lucas à Walt Disney chez Bartilla. Et enfin, Léo Soesanto pour le hors-série des Inrocks Star Wars, l'envers du mythe. Et dans quelques instants, ce sera le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine, ce sont quatre films de Akira Kurosawa que nous propose Wild Side. Et pour en parler, j'ai demandé à notre chroniqueur préféré sur les DVD, N.T. Bean. Donc il s'agit de quatre films parmi les premiers que Kurosawa ait tourné. Donc il a commencé en 1943. Donc il y a son deuxième film, Le Plus Dignement, qui s'appelait Le Plus Beau auparavant, mais on a changé la traduction. Qui marche sur la queue du tigre de 45. Je ne regrette rien de ma jeunesse de 46 et Un merveilleux dimanche de 47. Ce sont quatre films produits par la Toho. D'ailleurs, je signale que par ailleurs, Wild Side ressort énormément de grands classiques de Kurosawa, tous produits par cette compagnie Toho. Mais ces quatre films sont très rares. On les voit rarement à la Cinémathèque française lors d'une rétrospective. Mais enfin, ce n'est pas du tout des films courants. Ils sont très différents les uns des autres et ils nous disent beaucoup, évidemment, sur le Japon et aussi sur Kurosawa.
Ce qui est intéressant quand on voit ces quatre films aujourd'hui, c'est qu'on pourrait se dire, selon l'histoire officielle, que c'est les débuts de Kurosawa, que c'est quelqu'un qui se cherche, c'est l'apprentissage. Et quand on les voit, on est frappé par la maîtrise et par l'annonce d'énormément de choses qui vont advenir dans le cinéma de Kurosawa, mais ce sont déjà des films absolument passionnants et très différents les uns des autres. Mais on en trouvera des échos dans toute sa carrière. Et il y a à la fois des préoccupations contemporaines et à la fois des regards sur le passé et sur l'histoire du Japon, tout cela étant mis évidemment en parallèle. Et puis le lyrisme de Kurosawa éclos dans ces quatre films extrêmement variés.
Alors par exemple, Qui marche sur la queue du tigre, qui est un film alors en costume, un peu comme plus tard, on verra Rashomon ou Les Sept Samouraïs, mais qui a cette caractéristique particulière, c'est qu'il a été produit en 45, mais il n'est sorti qu'en 52. Alors c'est un mystère qu'il est intéressant d'éclaircir.
Oui, alors tout cet aspect de la sortie des films, de la guerre puis l'après-guerre, est très bien raconté dans un petit livret qui accompagne ce coffret. Et ça montre bien les aléas de quelqu'un comme Kurosawa, sur le plan même politique, pour continuer à faire des films. D'une part, enfin, il fait ses débuts pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc au moment où le Japon est en guerre, et Le Plus Dignement est quasiment un film de propagande, mais on y reviendra parce que c'est plus complexe que ça. Ensuite, il y a l'après-guerre où tout film qui voudrait exalter la tradition japonaise, etc.
Les valeurs féodales.
Voilà, et les valeurs, ou même remettre en question cette tradition féodale, mais en tout cas, la montrer à l'écran est un petit peu vue d'un mauvais œil par les libérateurs ou par le nouveau Japon.
Les Américains ont même interdit qu'on tourne des films en costume sur les samouraïs et autres.
Voilà, donc, par la suite, ça deviendra le Japon exotique qui sera à nouveau permis. Et entre-temps, Kurosawa aura tourné deux films très étonnants et différents l'un de l'autre, qui sont « Je ne regrette rien de ma jeunesse », qui pourrait être presque vu comme une antiphrase à ce que faisait Kurosawa juste avant. C'est-à-dire « Je regrette beaucoup de choses que j'ai faites dans ma jeunesse et je vous le montre dans ce film, notamment politiquement. »
Oui, puis, c'est un peu Kurosawa s'y révèle un peu comme le Rossellini japonais. C'est-à-dire que Rossellini, membre du parti fasciste, faisant des films de propagande et se découvrant résistant avec Rome, ville ouverte, on a l'impression que dans ce film, je ne regrette pas rien de ma jeunesse, c'est Setsuko Hara, qui vient de disparaître, d'ailleurs saluons sa mémoire, l'immense actrice japonaise, qui était une égérie du régime fasciste, qui incarnait, si vous voulez, le patriotisme japonais dans ses films. Et qui là, au contraire, se retrouve avec un militant d'extrême gauche, quasiment communiste, et elle l'adore, etc. Donc on se refait une virginité. Il refait une virginité à sa vedette et à lui-même.
Et en même temps, c'est assez complexe. Oui, Setsuko Hara, c'est un peu l'équivalent d'Ali Davali dans Cinéma Italien. C'était la grande star des années sombres, et puis qu'après, elle est tellement sublime qu'elle a été vedette de tous les cinéastes d'après-guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, qui est une sorte de grande saga sur cette héroïne qui, de très jeune adolescente presque, devient une sorte de mère courage du Japon d'après-guerre, elle hésite en fait entre deux prétendants. Il y en a un qui représente les idéaux d'extrême l'extrême gauche et qui va très très mal terminer, presque clochardisé après des années de prison, et qui sont les idéaux peut-être de Kurosawa. Et puis l'autre, qui est le fidèle compagnon, mais qui est l'homme du compromis. Et qui est le jeune homme qui va tout le temps consoler, qui va tout le temps être là pour être le confident, mais qui ne sera jamais le vrai compagnon de l'héroïne, et qui représente peut-être la mauvaise conscience de Kurosawa vis-à-vis du régime, du pouvoir en place, puisque c'est quelqu'un qui fait carrière. Et vous avez comme ça cette femme tiraillée entre deux hommes. C'est l'un des rares films même de toute la carrière de Kurosawa qui soit entièrement centré sur une figure féminine d'héroïne. Et je pense que de la même manière qu'Ozu, ou Naruse par la suite, Setsuko Hara représente une féminité qui incarne à la fois la tragédie du Japon et à la fois aussi son destin vers l'avenir. Donc il y a cette ambiguïté et j'ai du mal à penser que Kurosawa n'était pas un tout petit peu amoureux d'elle quand il l'a filmé dans Je ne regrette rien de ma jeunesse.
Et Un merveilleux dimanche.
Et Un merveilleux dimanche, c'est un film tout à fait étonnant qui commence comme une sorte de chronique qui ressemble à la fois au néo-réalisme, l'histoire d'un couple qui passe un dimanche et qui a un couple très démuni et désabusé. Et grâce à l'amour, on va avoir un espoir de renaissance de la relation de ce couple. Ça évoque aussi certains films britanniques d'après-guerre. Je pense à notamment Il pleut toujours le dimanche, un film de Robert Hamer, un exemple du cinéma social britannique. Et c'est déjà, comme va être un peu plus tard, par exemple, Chien enragé, une sorte de radiographie du Japon d'après-guerre à travers un couple qui est tellement dans le désarroi qu'il va vouloir absolument se rendre à un concert de musique classique. Ils n'ont même pas de quoi se payer deux billets et ils vont se réfugier. Alors c'est aussi une sorte, à la fin, d'ode à l'imaginaire, puisque dans de magnifiques épilogues, ils vont recréer dans un amphithéâtre vide un concert qu'on va entendre sur la bande-son, et c'est la symphonie inachevée de Schubert.
Alors, tout dernier film que vous avez évoqué brièvement, Le plus dignement, qui lui, alors, est un film de pure propagande.
Alors oui, c'est le dernier dont on parle, mais c'est le premier qui vient dans la filmographie de Kurosawa de ses quatre titres. Et au départ, propagande, c'est-à-dire l'effort de guerre dans une usine d'optique, mais d'optique où on comprend que les lentilles vont servir peut-être à des armes pour la guerre. Alors, un patron joué par Shimura, qui est le grand acteur qu'on retrouvera jusque dans Les Sept Samouraïs ou dans Vivre, c'est le patron qui exhorte les ouvriers à plus de productivité. Et étonnamment, le film de propagande en quelque sorte se retourne, et c'est peut-être le film de Kurosawa qui est le plus proche du néo-réalisme italien, puisque on se penche sur le quotidien des ouvrières de l'usine qui, à force de vouloir toujours faire mieux ou aussi bien que les hommes, puisque c'est aussi un film féministe avant l'heure, vont se tuer à la tâche, quitte à négliger tout le reste de leur vie privée, sociale, etc. Et finalement, c'est un film assez sombre et assez angoissant et effrayant sur ce fameux effort de guerre, avec une actrice absolument sublime qu'on ne reverra plus par la suite, puisqu'elle épousera Kurosawa, elle renoncera à sa carrière. Mais c'est un film déjà très passionnant sur une manière non pas de détourner le propos, puisque il s'agit quand même d'efforts patriotiques, mais d'aller au plus profond de l'intériorité des personnages pour décrire une situation qui finalement va à l'encontre du projet initial.
Merci beaucoup, Ntebin. Donc je rappelle les titres: Je ne regrette rien de ma jeunesse, Un merveilleux dimanche, Qui marche sur la queue du tigre et Le plus dignement. Quatre films donc de Kurosawa pour la Toho que Wildside nous propose. C'est vraiment une rareté et des films passionnants. C'était Projection privée, une émission de Michel Simon, à la prise de son Julien Douminc. Elle a été réalisée par Laetitia Coya et préparée par Sylvia Favre. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr. Et dans quelques instants, ce sera Une vie, une œuvre par Perrine Kervan.